noi, c'è-à-dire au niveau des événements, du problème qui existe. Il y a, bien évidemment, deux dimensions à la messianité juive. Il s'agit pour nous de comprendre quelle est la finalité de la dispersion, mais en termes traditionnels, de façon plus stricte, de l'exil, et d'autre part, la finalité du retour de l'exil, qui est de pente à la messianité, à l'expérience de la messianité, le mouvement qui va d'Israël vers les nations, la dispersion, l'exil, et d'autre part, le mouvement du retour. Bon, en général, nous sommes tentés d'assurer à l'un de leurs mouvements des finalités que je vous ai dénumérées tout à l'heure. Elles peuvent être définies de différentes manières, mais des finalités dont on ne voit pas apparemment le rapport dialectique. Les différentes doctrines qui ont essayé d'expliquer, premièrement, le fait historique de la dispersion de l'exil, et celles qui ont été qui ont essayé d'expliquer le phénomène de retour, ces différentes doctrines arrivent à nous donner dans l'une et l'autre pente des réponses cohérentes, mais on n'arrive pas à percevoir toujours très clairement le lien logique, le lien dialectique de ces deux mouvements de l'identité d'Israël. Et à la suite de Judas Levi, qui a été le premier penseur juif du Moyen-Âge à systématiser ce problème, à la suite de Judas Levi, c'est surtout dans le Maharal, nous trouvons des analyses concernant non pas seulement une explication de ce qu'est la dispersion et une explication de ce qu'est le retour, mais aussi, et de façon plus précise, le lien qu'il y a entre ces deux mouvements. Par conséquent, c'est à une théorie de l'ensemble de ces deux pentes de la messianité. La messianité de type de signification universaliste, l'aller de l'identité d'Israël vers l'identité des nations, et puis deuxièmement, la messianité de signification apparemment, entre guillemets, particulariste, disons, pour employer déjà le terme moderne nationaliste, le retour des Juifs, des nations, vers Israël. Nous allons essayer de réfléchir surtout dans l'articulation de ces deux pentes. Comme vous savez, et je vous le rappelle brièvement, classiquement, en ce qui concerne le premier mouvement, la finalité, sinon la vocation de la dispersion, la signification de l'exil, on présente habituellement trois thèmes. Je vous les rappelle très brièvement, ce ne sera pas l'objet essentiel du cours ce soir, mais il faut les avoir en tête. Premièrement, la thèse de l'expiation. L'exil présenté comme une sorte de châtiment. Non pas un châtiment du dessin, parce que le châtiment du dessin serait la suppression des fauteurs de celui qui aurait fauté. Mais cette doctrine nous présente l'Israël de l'Antiquité, qui était chargé par la révélation biblique d'une vocation de peuple, de prêtre, de l'humanité. Cet Israël de l'Antiquité, l'Israël de l'Hébreu, aurait failli. Par conséquent, l'exil serait prévu comme dans les conditions du contrat de l'alliance entre Dieu et Israël, l'exil serait prévu comme une soupape de rédemption. Il ne s'agit pas seulement d'un châtiment pur et simple, encore une fois, mais d'un châtiment vraiment pur, d'une expiation. C'est la première thèse, on peut la dénommer la thèse théologique. Je la rappelle pour mémoire, nous allons revenir dans les analyses sur les textes que je vais citer. Il y a une ambiguïté, si j'ose dire, considérable dans une thèse de ce genre, parce que présentée à la manière dont les prophètes d'Israël, dont les maîtres d'Israël ont présenté à un certain sens, mais reprise par la suite, en particulier par la théologie chrétienne, mais aussi par d'autres idéologies, au compte de la culture de la doctrine des nations, elle a eu finalement une résonance très différente de celle que les prophètes d'Israël voulaient lui assigner. Je ne nie pas l'existence d'une telle thèse, mais je voudrais mettre en évidence son caractère extrêmement dangereux à maintenir. Il n'y a pas de doute que cette explication a été très souvent employée. Exil, finalité, expiation. Et pas expiation du dessin, châtiment du dessin, mais châtiment rédempteur, expiation rédemptrice. Il y aurait une faute à l'origine au niveau de l'être d'Israël, et cette péripétie de l'exil aurait pour finalité, aurait pour vocation, une épuration, un affinement, une guérison, et au moment de pas l'objet de l'analyse que je voulais vous apprendre. Deuxième thèse, c'est la thèse de la mission. Il y aurait nécessité de la dispersion, nécessité de l'exil qui s'attache à l'identité d'Israël, parce qu'Israël est porteur d'une vision, parce qu'Israël est porteur d'une vocation. Et en général, cette thèse assigne une sorte de vocation d'enseignement plus que de témoignage à Israël. Israël serait chargé d'enseigner aux nations un certain message. Cette deuxième thèse est plus récente que la première. Elle est plus récente que la première. Je crois qu'historiquement, on peut la dater au temps de la société libérale juive, au temps du libéralisme philosophique, au moment de l'émancipation, lorsque les juifs ont quitté les ghettos, tout ça est très schématique, eh bien, ils ont essayé de définir leur propre identité de diaspora après le temps des ghettos comme étant, comme se définissant dans la vocation d'une mission. Est assez simple à définir, mais très difficile à comprendre. On n'a jamais compris quelle était la mission dont serait chargé les juifs dans le monde. C'est une mission d'enseignement, de transmettre pas seulement un témoignage, mais un message. On ne voit pas très bien de quoi il s'agit. Et puis, il y a une troisième thèse qui, précisément, tente à récapituler les thèses précédentes, mais elle était passée. Par rapport au sujet du miracle, essayer de comprendre la qualité entre ces deux, comme je disais tout à l'heure, entre ces deux attentes de la messianité et de la juive. Voici la première introduction, et je crois qu'il est indispensable pour entreprendre nos analyses.
Serait la manière de la dispersion et que ce qui serait expliqué
être le temps de recouvrement, le temps de recouvrement. Et nous avons là, bien évidemment, une dialectique entre la forme universaliste l'identité d'Israël et sa forme nationaliste en termes contemporains. La première équation qui apparaît. Or, ce qu'il faut bien comprendre, et là nous avons en mémoire les deux premières thèses d'explication de l'existence de la cité du premier. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la dispersion est d'abord un phénomène historique assez tard dans l'histoire d'Israël. L'histoire d'Israël commence, dans les commencements, commence au temps des patriarches. Abraham, Isaac, Jacob, il y a à peu près 3500 ans. Et puis, très tard dans l'histoire de cette famille, apparaît le premier épisode de l'exil, d'abord l'exil d'Égypte. Et puis, se passe très longtemps après la sortie d'Égypte, où, de nouveau, il y a dispersion à la fin de l'époque du premier temple. Et puis, il y a le retour dans la période du deuxième temple. Et puis, encore 400 ans après, donc très longtemps après le commencement, le judaïsme devient uniquement un peuple dispersion qui a duré pendant 2000 ans jusqu'à à peu près le temps contemporain. Donc l'événement historique de la dispersion, c'est un caractère anormal pour une société humaine de vivre en dehors de son lieu naturel. Et vous comprenez que ces implications ne sont pas simplement géographiques, elles sont aussi anthropologiques. L'identité d'une certaine manière telle forme, il semble-t-il ne pas être fixé à un niveau absolument anormal d'existence en dehors de son lieu naturel. Dans les anormal existant, du fait d'être situé en dehors de son identité normale, de son identité normale et naturelle, apparaît malgré tout comme assez tard dans le corps de cette identité différente. Mais d'après les faits, qui a frappé le commentaire de la musique, et ce sont ces termes que le Maharal va reprendre, d'après les textes bibliques, eh bien, au niveau de la prophétie déjà au patriarche, cela est annoncé dès le commencement de l'existence de l'identité d'Israël. Il y a un premier thème sur lequel le Maharal nous invite à réfléchir. Parce que déjà, avec le Maharal, le signal. Vous voyez à quel point cela met en évidence la difficulté de la première thèse. La thèse de l'expiation, la thèse du châtiment du raisin. Voici donc comment arrive notre problème. En fait, l'événement de l'exil apparaît au moment de la destruction du temple, apparaît comme le bilan d'une histoire qui a échoué. Sous barre de récupération, l'identité d'Israël va se substituer à elle-même dans une autre manière d'être. Le juif de l'exil. Et déjà, ce caractère normal porte en lui-même l'espérance du salut. C'est l'essentiel de l'analyse du Maharal sur cette première équation. Mais malgré tout, nous apercevons, en lisant attentivement la Bible, que cette annonce, que cette révélation qui est faite déjà au patriarche concernant l'identité de leur descendance, comporte déjà la prévision de la dispersion et donc de l'exil. Nous allons être maintenant occupés à une réflexion sur un texte qui porte sur ce premier thème. Ce texte se trouve dans le chapitre 14 de la Genèse. Nous avons dans ce chapitre 14 de la Genèse qu'à un certain moment de son existence, Abraham, et c'est un thème essentiel au niveau de la vie animale, mais qui se retrouve en fin de rang en mineur dans l'histoire des deux autres patriarches, Isaac et Jacob, Abraham s'engage qui donne tous concernant sa propre identité. Il fait passer à son niveau une mutation dans l'identité humaine. L'histoire de l'humanité va recommencer à partir d'Abraham. Il y a une mutation irréversible. Elle ne sera jamais dans l'ordre du rapport entre la créature et le créateur, dans l'ordre du rapport des hommes entre eux. L'histoire humaine ne sera jamais après Abraham comme elle est Abraham en s'étant à la révélation de cette mutation en lui. Il le sait. Et ça lui est confirmé de l'extérieur de sa conscience par la révélation proprement prophétique. Et cependant, cette promesse que la descendance de l'humanité régénérée, l'humanité future, sera bien la descendance de cette manière d'être qui commence à émerger avec l'identité d'Abraham, cette promesse, il ne la voit pas se réaliser. l'essentiel de ce qui préoccupe le patriarche dans le chapitre 14 et le chapitre 13 de l'Homme. Il y a un doute quant à l'authenticité de sa propre identité. Parce que la réalisation, la concrétisation de la promesse n'arrive pas. Il ne doute pas que ce que Dieu a promis se réalisera, mais il doute d'être vraiment celui à qui Dieu a promis ça. Et c'est là que Abraham entend la révélation dont je vous parlais tout à l'heure, que sa descendance est vouée à la vie. Vous voyez ce verset, lorsque Abraham demande à Dieu, en quoi saurais-je que vraiment j'hériterai de cette terre d'Israël, de la terre de la société de la rédemption se réalisera à la fin des temps, en quoi je saurais que ma descendance est vraiment la descendance qui héritera de cette terre, dans ma égard, tu es ma chéna, alors je lui réponds, d'avoir tu sauras que ta descendance sera étrangère dans un pays qui ne lui appartient. Il y a un paradoxe dans la réalité de la mission de l'homme. Abraham demande un signe qui lui assure la certitude de l'accomplissement de la promesse de l'héritage de l'Israël, de l'héritage de la terre d'Israël, et Dieu donne comme signe
la promesse.
Il y a là entre dans, dans cette distance entre le tout qui est porté sur soi-même et sa propre identité, eh bien, toute l'explication vient de sa histoire qui a pour objet finalement de faire identifier l'identité elle-même et son niveau. La troisième réponse, parce que la négligé de convertir les non-juifs, je dis les non-juifs en judaïsme, il faudrait dire les non-hébreux à l'époque. Parce qu'il a négligé la conversion des hommes à sa propre guerre. Et ça, c'est un peu un assez lorsque la guerre a été gagnée, c'est-à-dire le chapitre 14 sur la vision, lorsque la guerre a été gagnée, et Abraham n'a pas voulu garder le butin de sa victoire. Il a abandonné. Il a abandonné le butin de sa victoire. Alors, il y a la troisième question sur laquelle nous allons commencer la réflexion. Je crois que, d'abord, l'explication de base, c'est l'explication de base de Abraham. Il ne faut pas voir cette faute qui est désignée par ces trois réponses au niveau de la personnalité d'Abraham lui-même. La geste d'Abraham est bien la geste d'un commencement d'histoire. C'est un geste au commencement d'une histoire d'enlèvement qui a pour objectif de faire exister une certaine société. Et finalement, c'est l'identité du peuple, de la société, qui est le rassemblement des descendants des patriarches, qui, en retour, donne l'identité du patriarche en tant que commencement, en tant que principe. Je veux dire que l'histoire, selon la vision du Guy, telle que l'a fait comprendre le Maharal, le temps de l'histoire, c'est toujours le temps contemporain. Israël, la société d'Israël, c'est toujours la société d'Israël au temps de l'instant contemporain de l'existence. Donc, à chaque instant, Israël est né que Israël de l'instant terrestre de l'existence terrestre. Cet Israël a un passé et un avenir. Mais finalement, la définition, l'authentification ou la justification de ce passé et de cet avenir est, si j'ose dire, entre les mains du contemporain de l'instant présent. Israël est toujours au présent et il a son passé et son avenir. Vous avez déjà compris que l'explication de la Gemara porte sur Israël présent, c'est-à-dire entre l'instant du commencement et l'instant de la fin. Ce ne sont pas du tout les hommes du commencement des patriarches qui sont, si vous voulez, à l'unité dans les limites que la Gemara nous donne, et non plus les hommes de la fin, ce sont finalement cette définition de la faiblesse de l'identité de l'homme de la promesse porte sur toutes les générations qu'il y a entre le commencement et la fin. Et énormément de formules de notre liturgie l'indiquent. Israël, c'est nous, les hommes vivants maintenant dans une distance contemporaine. Et puis nous avons eu les patriarches, et nous aurons des descendants. Mais finalement, le nom de nos patriarches dépend de ce que nous sommes, de même que le nom de nos descendants. J'essaierai de vous donner une image pour expliquer clairement ce que je veux dire ici. C'est que, bien entendu, nous sommes habitués à l'idée, entre parenthèses, surtout glaxonienne, de la durée. Que la réalité du temps, c'est la durée. C'est ce qui est vécu. Mais finalement, il y a une autre vision du temps qu'utilise ici l'éducation de la Gemara. Le temps réel, c'est le temps présent. Le temps réel, c'est le temps de maintenant. L'éducation de la Gemara, le présent de la dimension, porte sur les dimensions internes de l'identité d'Israël pendant tout le temps qui va du commencement à la fin. Elle ne porte pas sur l'identité d'Israël au commencement, ni non plus sur l'identité d'Israël à la fin. Je veux dire, en d'autres termes, les patriarches sont les héros de l'identité d'Israël dans le commencement. Ils sont des faits à eux, ils sont donc les principes de l'identité d'Israël, ils sont donc justifiés par rapport à cette identité. Mais les hommes de la fin des temps, les hommes de la dernière génération, sont des hommes de l'histoire d'Israël réussis. Un diagnostic d'identité fort sur toutes les générations qui vont du début jusqu'à la fin des temps, le début et la fin. Le début et la fin non contre. C'est-à-dire, ce geste d'Abraham, de douter de soi, est au niveau de la personne d'Abraham une vertu. Ce geste de la mobilisation des hommes voués à l'étude pour faire la dans l'identité humaine est en soi, à l'échelle de l'identité des patriarches, une vertu. C'est lorsque ces mêmes thèmes travaillent la société d'Israël dans le contemporain de l'histoire que le Gabriel Adhémara y met en évidence un doute, y met en évidence une sorte de disqualification. Voilà comment le mariage de change pour rattacher les deux thèmes dont nous parlons tout à fait au début. De quelle nature est cette force qui fait qu'Israël est en exil? Eh bien, et nous avons vu qu'il ne peut pas s'agir uniquement d'une doctrine d'explication par l'expiation, puisque cela est déjà prédit à Abraham lui-même. Ce n'est pas au niveau de la personne d'Abraham que nous devons chercher cette porte, mais c'est au niveau de l'attitude de la société d'Israël pendant le déroulement des générations. Devant là, l'attitude de distribuer les vertus dans trois coordonnées. Ces trois coordonnées sont les trois coordonnées de l'épreuve de l'authenticité d'une certaine identité. Et le plan qui nous donne là est un plan très intérieur à la cohérence du monde, mais c'est lui qui, très certainement, pour la première fois, l'a mis en évidence de façon aussi claire. Moral dit chaque fois qu'il y a une épreuve d'ordre moral, surtout lorsque l'épreuve d'ordre moral s'incarne dans la situation historique, elle se présente dans trois dimensions. Le rapport entre l'homme et le créateur, le rapport entre l'homme et Dieu, le rapport entre l'homme et l'homme, et le rapport entre l'homme et lui-même, c'est-à-dire le rapport entre l'homme et l'identité humaine en lui. Donc ce n'est pas par hasard que nous trouvons dans cette explication de la Gemara trois données. L'une concerne les rapports entre l'homme et Dieu, le doute porté par Abraham sur l'accomplissement de la promesse, l'autre portant sur les rapports de l'homme avec autrui, le fait d'avoir négligé la conversion des autres hommes que ceux d'Israël, le fait d'avoir laissé un butin qui appartenait à Abraham en dehors de la voie d'Abraham, et puis, troisièmement, le rapport de l'homme avec lui-même, substitué des tâches temporelles, c'est l'exemple de la tâche temporelle, à la tâche éternelle de la relation avec la vérité, c'est-à-dire l'éducation. Retournons là les raisons du choix de ce texte par le Maharaj. Il y avait à l'intérieur de l'Israël une faiblesse, une sorte de disqualification à être totalement Israël, mais à l'échelle de toutes les générations de la contemporanéité d'Israël. Voilà dans quel sens on peut éclairer cette thèse de l'explication. Il y a tout un apprentissage de la vertu ultime, telle qu'elle sera définie par la loi de Moïse, dans l'ordre de la confrontation avec les autres civilisations, et en tout cas dans ces trois coordonnées de l'épreuve de la vertu. Voici donc le premier texte. Il y a une difficulté d'être pour Israël à être totalement lui-même, et par conséquent une épreuve qui dure autant de temps que dure l'histoire des sociétés, jusqu'à ce que Israël arrive à s'épurer, à se purifier de cette. Nous retrouvons là les trois coordonnées principales de ce qui fait la culture de l'identité humaine. D'une part, la dimension spirituelle, d'autre part, la dimension religieuse, et d'autre part, la dimension morale. Et la conclusion que le transfert du moral est extrêmement importante. Il a posé la question suivante. Pourquoi les Juifs durent-ils tellement longtemps? Voyez-vous, où est la vraisemblance d'une telle explication? Un peuple à côté, et c'est une sorte de soupape de récupération du point de vue de l'alliance entre ce peuple et le Créateur que d'aller en exil. Mais c'est tout simplement la difficulté que ce ne sont pas les mêmes personnes, ce ne sont pas les mêmes individus qui auraient fauté et ceux qui auraient à exiger. Voilà, juste un scandale statistique, il y aurait là une impression. On ne comprendrait pas très bien s'il ne s'agissait pas d'une identité à l'échelle de l'Église. S'il s'agissait de dialectique du châtiment à l'échelle individuelle, ce serait absolument invraisemblable. Cette thèse n'aurait plus aucun fond. C'est la raison pour laquelle le Maharal, très profondément, pose la question suivante. Pourquoi l'exil dure-t-il si longtemps? Et il répond, lorsque la mise au point de telle ou telle vertu est facile à faire. Lorsque le degré d'attention est facile à atteindre, alors l'exil dure peu ou un peu plus longtemps. Par exemple, les mercures d'Israël devaient purifier et acquérir, dans le passage de la civilisation de Babel après la destruction du premier temple, cet exil a duré 2 ou 3 ans. La vertu qu'Israël devait acquérir ou purifier dans le passage de la civilisation de l'Égypte, eh bien, cela a duré plus longtemps, 2 ans. Mais pourquoi l'exil présent dure si longtemps, 2 ans? C'est parce que cela doit être une libération définitive, cela doit être réussi, et tant que cette épuration de l'identité n'atteint pas le stade définitif, alors on doit attendre. L'enjeu est tel, il n'y a pas de quatrième chance, l'enjeu est tel que tant que la société d'Israël n'aboutit pas à la certitude de soi au niveau de ces 3 vertus, alors les individus durent. La logique de la réponse du Maharal, c'est que la faute que l'exil vient punir, c'est la durée de l'exil lui-même. La faute que l'exil vient punir, c'est l'exil lui-même. C'est-à-dire cet entêtement de l'identité d'Israël à être encore à l'hôpital, à être encore dans la maison du juif. Le fait de s'entêter à être encore en traitement, c'est le mot que je cherchais. Eh bien, c'est le signe de la maladie. Ce que l'exil vient punir, c'est la durée de l'exil. Est-ce que c'est suffisamment? Parce que c'est effectivement le propre de toutes ces générations entre le commencement et la fin de dévoiler cette inadéquation à la vertu divine dans les 3 dimensions que la démarche a signalé et que ces jeunes tiennent du passé, je le montre de façon encore, c'est que dans le rapport entre l'homme et Dieu, dans le rapport entre l'homme et son prochain, dans le rapport entre l'homme et lui-même, cette identité humaine de modèle d'Israël n'est pas encore adéquate avec elle-même. Ce qui, au niveau de la chair répartiable, est une action du juste, Abraham a bien fait de mobiliser Abraham a bien fait de lutter de lui, il nous a enseigné par là des formes de la virginité, on peut le prendre à différents régimes. Abraham a bien fait d'œuvrer du point de vue de la sélection et de ne pas faire entrer à l'intérieur de l'identité d'Israël n'importe quoi dans le commencement. Je veux dire donc au niveau du geste de mariage, il s'agissait de vertu, mais cette apparente fidélité à ses positions d'Abraham, à travers le temps, serait en réalité une infidélité. Au niveau d'Israël constitué comme peuple, ce savoir avec celle-là dans le geste individuel devient la chose à expliquer pour lui. C'est là la logique de cet enseignement de la Gemara que le Maharal a voulu nous expliquer. Et je voudrais tout de suite confirmer cela. Cet enseignement se trouve dans le Lourdes Achim. Je voudrais tout de suite confirmer cela dans un deuxième enseignement qui se trouve cette fois dans l'État d'Israël, au chapitre 13. Et là, le Maharal cite un passage de la Maharal Shabbat, que je vais vous rappeler, parce que dans ce groupe, on a déjà étudié, et qui me semble être le volet, le deuxième volet de ce même enseignement. Certainement, dit le Midrash de la Maharal, un certain moment, Dieu juge Israël. Et Dieu juge Israël inadéquat à sa propre identité. C'est donc de nouveau le même problème. À un certain moment, dans le temps du village, ce moment est contemporain à toutes les dissidents d'Israël entre le temps de patriarche et le temps de la fin et le temps de la réussite de l'histoire d'Israël. Ce jugement, la Gemara de Shabbat nous fait comprendre dans le commentaire de la Gemara dans le chapitre 13 du Netzach d'Israël. Ce jugement est le suivant, et il continue. Et il est formulé de la manière suivante, Dieu s'adresse au patriarche et a dit qu'on ne peut pas reproduire les sacrifices. Il s'adresse successivement à chaque patriarche, ton peuple par reproduire. Et il continue. Donc il y a encore une adéquation entre l'identité d'Israël et sa vocation. Alors il s'adresse d'abord à Abraham. Et Abraham répond, je vous le montre très exactement, question de Jacob, des enfants ont fauté. Et Jacob en a un réponse capable. Et il dit, mes enfants ont fauté, il faut les annuler. La justification de ton nom. Et alors, il dit, je n'ai pas trouvé de vraie sagesse chez les anciens, je n'ai pas trouvé non plus de vraie intelligence, c'est ce que je vois, le grand-père, Jacob, dit, et ça fait ça. Et il fait ça. Et ça, tes enfants ont fauté, il faut le faire. Et il a répond, quand mes enfants ont dit, quand ils ont dit dans Israël, on dit, nous acceptons d'être Israël, t'as un peu de choix, alors c'était tes enfants à toi, et maintenant tu m'as sauté, tu les appelles mes enfants. Alors là, je propose une stratégie à Dieu, il va nous demander de compter le temps exact pendant lequel ils sont occupés à et on ne sait pas le temps du travail, le temps de la nourriture, le temps de l'étude, le temps du sommeil, le temps de tout le temps. Et puis il reste très peu de temps par jour à être vraiment occupé à la fin. Et Isaac propose à Dieu de partager le temps. Que Dieu pardonne la moitié, et Isaac prend sur l'autre moitié. Et il ajoute bien que si Dieu ne veut pas pardonner la moitié, il prend la cheville. D'ailleurs, il l'a déjà fait, puisqu'il s'est dit d'offrir un sacrifice. Et le Midrash qui est là, pour que vous compreniez très directement la logique de ce Midrash, je voudrais relier avec l'enseignement précédent de demain, pour ne pas avoir le monde dans son enseignement. C'est que, finalement, qui peut justifier Israël? C'est le patriarche intermédiaire. C'était celui qui n'était ni au commencement ni à la fin. Parce que c'est celui qui vraiment a vécu la vocation d'Israël d'être une succession de générations collectives entre le premier et le dernier. Et au fond, le problème du destin historique d'une certaine identité collective qui se constitue le long des générations est bien plus le destin d'Israël que celui d'Abraham et de Jacob. C'est déjà d'une autre manière. Maintenant, c'est le commencement d'une certaine histoire. Son destin individuel fondé. Celui qui littéralement a commencé quelque chose a fait quelque chose dans sa vie. Sa vie a un fondement. Celui qui achève cette chose a aussi fait quelque chose de sa vie. Sa vie a un fondement. Mais tous ceux qui sont entre le premier et le dernier, c'est à eux que se pose le problème de la cohérence et de la finalité de l'histoire. Ce problème-là est vécu par Israël, mais il est vécu par l'humanité entière. Depuis le premier homme jusqu'au fils de l'homme, il est vécu par Israël au niveau de patriarche, et très exactement au niveau d'Isaac. Pour le dire dans un autre terme, avant d'être humain, il est d'abord le fils du père, en tant qu'il est fils d'Abraham, et le père du fils, en tant qu'il est père de Jacob, mais en lui-même, qu'est-ce qu'il est? Et c'est bien, effectivement, ce drame. Et la situation qui porte le problème de l'inadéquation entre soi et soi-même. Or, c'est précisément ce patriarche, Isaac, qui avait appelé pour Israël. Parce que c'est effectivement lui qui portait ce destin de la question posée par Dieu, pourquoi l'exil dure si longtemps, c'est donc que Israël a ce deuxième. La deuxième manière d'expliquer, c'est le fait de se reporter à l'identité de chacun de ces patriarches du point de vue de leur vertu individuelle. Nous savons que, pas seulement dans la symbolique du calcul, mais nous savons d'autre part que Abraham, Isaac et Jacob ont ensemble collaboré à faire exister l'identité d'Israël, mais chacun d'entre eux parlait d'une vertu différente. Abraham par la vertu de charité, par la vertu de respect, Jacob par la vertu de miséricorde, par la vertu de rachamim, par la vertu de vérité, et Isaac par la vertu de la rigueur, par la vertu de la justice absolue. Or, c'est pour que ce plaidoyer pour Israël puisse être fait du point de vue de l'identité des commencements, pour que ce plaidoyer pour Israël puisse être fait, il fallait que ce soit l'homme de la rigueur absolue qui le fasse. Si c'était Abraham en tant qu'homme de Chesed, Jacob en tant qu'homme de Rachamim, qui plaidait pour Israël, inadéquat à lui-même, pour Israël et la faute, ce plaidoyer serait inefficace. Il fallait que ce soit l'homme de la rigueur absolue qui plaide pour répondre en toute justice, en toute rigueur, que finalement, ce jugement se fait par l'homme des générations intermédiaires, c'est-à-dire par Isaac. Bien, voici les deux textes bas qui nous permettront, à partir desquels nous avons donc réfléchi à notre problème. Il y a une évidence qui apparaît dans l'enseignement du Bahá'í, c'est le caractère absolument anormal de ce stade intermédiaire, qui est effectivement donc représenté dans l'histoire des patriarches par Isaac, de ce stade intermédiaire de l'existence d'Israël entre le commencement et la fin. Au commencement apparaît une identité spécifique, une identité hébraïque. À la fin, apparaît de nouveau cette identité spécifique au terme d'une histoire réussie, l'identité d'Israël. Ça ne veut pas dire déjà, par exemple, pour dire Israël, un juif, un israélien, enfin, un Israël qui ne serait qu'Israël, un juif ou un hébreu qui ne serait que cela après l'histoire. Après l'histoire, après que le rapport avec l'universel des nations aurait réussi. Au commencement, il y a un Israël qui est Israël, et c'est au début de la sélection, au terme, il y a un Israël qui est Israël, et qui est au terme de la sélection. Et ce qu'il faut mettre en évidence, c'est que tout ce stade intermédiaire est un stade d'anormalité, et cette anormalité se traduit par une inadéquation avec son propre maître. Alors, question de réfléchir à la signification de ce commencement et de ce terme de l'histoire d'Israël du point de vue de ces deux pentes de la messianité. Cette spécificité qui apparaît au début et qui se retrouve à la fin, et d'autre part, cette relation avec l'universel humain qui fait tous les états intermédiaires. Et je voudrais vous signaler déjà ce qui n'est pas, à mon sens, un paradoxe, mais bien une explication de ce problème. Abraham et Jacob ont été les deux patriarches qui ont changé de nom et qui n'ont pas vécu leur vie en Égypte d'Israël, qui ont été dans les temps. Abraham a connu ce phénomène d'une mutation de l'identité, changement de nom. Jacob a connu ce phénomène d'une mutation de l'identité, changement de nom. Et tant Abraham et Jacob ont eu à changer de nom, ont eu aussi à changer de nom, ont eu à vivre dans le Abraham devient Abraham, et il y a Abraham vivant dans le pays de Canaan, et Abraham ayant vécu aussi en dehors. Jacob devient Israël, et il y a Jacob chez Abraham et Israël chez lui. Je crois que ça est extrêmement pas la même. Or, Isaac est celui des trois patriarches qui n'a pas changé de nom et qui n'a jamais quitté et Israël. Et il fallait que se refaire ces textes pour parler de l'authenticité d'Israël pendant tout le temps intermédiaire, pendant tout le temps de l'exil. Il n'y a pas du tout un paradoxe et on comprend bien que c'est l'identité authentique d'Israël seule peut justifier et expliquer cette pente de la vocation de la dispersion. Et nous allons nous référer à l'histoire du commencement, et nous nous référons, en fin de compte, à l'histoire de la fin. L'histoire du commencement. Tout procède l'identité d'Abraham. Et cet effort, au niveau de trois générations, aura été une effort de sélection tout à fait existée l'identité d'Israël au niveau de Jacob. Tout procède l'identité d'Abraham. Et là, je vous rappelle, un thème extrêmement important de la Bible, c'est que il a existé, selon le récit du Bible, il a existé dans la plus haute antiquité un universalisme humain concret, un universalisme humain réel, qui était la civilisation de Babel. La civilisation de Babel antérieure à l'apparition d'existence de l'histoire d'Israël.